France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler. Aujourd'hui, notre invité, philosophe, a choisi un texte dense, capital, d'une cinquantaine de pages, sorti dans une revue en 1985 et devenu aujourd'hui une référence mondiale. Un texte mondial, mais pas forcément lu ou connu de tous, alors même qu'il nous révèle notre part hybride, humaine et technologique. C'est le Manifeste Cyborg de Donna Haraway.
I think of the cyborg as both a fictional and a factual.
Le cyborg est un nœud entre un sens fictionnel, factuel et historique qui rassemble des sciences de l'information et des ordinateurs, des organismes humains et non humains et des êtres humains vivant en relation avec ces sciences. De plusieurs points de vue, la Deuxième Guerre mondiale a donné naissance au monde de l'information. Donc je ne pense pas le cyborg comme un Terminator ou un robot, mais plutôt comme une conjonction historique d'organismes humains et de machines avec des conséquences fortes sur l'imagination et la politique. Il a des effets dans le réel, une activité parmi nous. Presque dans un sens de science-fiction. La science-fiction remplit le monde d'entités qui le font bouger.
Bonjour Paul Preciado.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, réalisateur, écrivain, commissaire d'exposition. On vous doit plusieurs essais, dont votre premier livre, Manifeste contre-sexuel, qui reparaît ces temps-ci aux éditions Diable Vauvert, 25 ans après sa première parution. C'était donc en l'an 2000, comme
tout
on dit.
Ouais.
Et vous y citez Donna Haraway. On vient d'entendre sa voix. Vous avez décidé de nous parler de Donna Haraway et de son manifeste cyborg. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre sa voix, vous qui l'avez lue et vous qui la connaissez même?
Oui, tout à fait. En fait, Donna Haraway, c'est une inspiration permanente. En fait, je pense que pour moi, c'est une des personnes les plus importantes, en fait, une des pensées les plus radicales et les plus transformatrices pour le 21e siècle, sans doute. Et c'est vrai que c'est aussi quelqu'un que j'adore personnellement.
Elle est comment?
Donna est extraordinairement intelligente, drôle. C'est quelqu'un qui adore les chiens. C'est-à-dire que nous,
elle écrit d'ailleurs.
Elle écrit énormément
sur les baisers salivaires avec ses chiens.
Elle écrit en fait, oui, sur les espèces des compagnies en fait, et les compagnons. Et c'est quelqu'un que j'ai connu en fait quand j'avais 25 ans aux États-Unis. Et la première fois en fait, je suis allé à un colloque à Santa Cruz où elle travaille à l'intérieur d'un département qui me semble en fait déjà que par les noms et par les gens qui travaillent à l'intérieur, être vraiment comme un véritable laboratoire de la pensée contemporaine. C'est un espace qui s'appelle Histoire de la conscience, en fait, donc un département d'Histoire de la conscience, où il y avait à l'époque James Clifford, l'anthropologue, et aussi, en fait, Angela Davis. Et donc
ah ouais, Donna sacré labo.
Ah ouais, sacré labo. En fait, donc je suis allé à un colloque où qui était aussi fondateur pour moi en 95 en fait, où il y avait au-delà de Donna Haraway, il y avait aussi Teresa Loretis, et ces colloques s'appelaient en fait Technologie du genre, en fait Gender Technologies. Et donc c'est la première fois en fait que j'ai entendu parler Donna Haraway. Et pour moi en fait c'est quelqu'un dont la la pensée connecte immédiatement avec la mienne. J'ai, j'ai l'impression en fait de pouvoir vraiment presque en fait vraiment nager à l'intérieur de sa pensée. Et ça m'arrive en fait très rarement.
Premier contact que vous avez eu avec avec Donna Haraway, c'était donc à travers ce colloque, donc directement en vrai. On vous avait jamais parlé du manifeste Cyborg, vous l'aviez pas eu entre les mains.
Si, j'avais évidemment, parce qu'en fait évidemment quand je suis arrivé aux États-Unis, en fait le manifeste Cyborg était il faut savoir en fait qu'évidemment j'étais en même temps étudiant en philosophie et en théorie du genre à l'époque, et les manifestes cyborg étaient entre tous les mains. C'est-à-dire qu'on parlait pratiquement, il y avait deux textes en fait qui étaient lus et relus et discutés. En fait, c'était donc les livres de Judith Butler, Gender Trouble, et les manifestes
cyborg. Troubles dans le genre.
Troubles dans le genre et les manifestes cyborg. Et on passait la journée en fait à parler de ces deux textes et de tous les textes en fait qui tournaient autour, parce qu'il y avait en fait, c'était texte-là était comme vraiment comme la pointe en fait d'un iceberg autour duquel il y avait une myriade d'autres textes en fait, mais c'était absolument fondamental. Sauf qu'en fait la grande différence, c'est que quand on lit les textes de Donna Haraway, on peut s'attendre peut-être en fait à une pensée peut-être assez froide en fait, à une personne assez distante en fait, et alors que Donna Haraway est quelqu'un des très espiègle en fait, presque il y a une énergie dont je parle en fait dans le manifeste contrasexuel, en fait, enfantine. En fait, il y a quelque chose vraiment de la vitalité d'un enfant qui commence en fait à explorer les mondes. Et aussi, elle a une pensée totalement rhizomatique. C'est-à-dire qu'en fait, elle va ouvrir une dizaine de lignes et de pensées en même temps. Du coup, on s'est dit, mais elle part dans quel sens? En fait, elle part dans tous les sens en même temps. Et après, elle va revenir. Donc, c'est une pensée aussi en spirale. Et ça aussi, ça rompt peut-être les textes dans la lecture. Parfois compliqué, c'est-à-dire que elle demande en fait un effort parce qu'elle ne pense pas comme on est habitué à penser d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, une des caractéristiques de la pensée de la modernité, c'est vraiment la pensée dichotomique, la pensée binaire. C'est-à-dire, évidemment, nature, culture, organisme, machine, masculin, féminin, hétérosexuel, homosexuel, homme, animal, etc. Tout son travail, en fait, consiste justement à essayer d'inventer une épistémologie qui dépasse les binaires. Et donc, ça, c'est pour nous, il faut penser, en fait, c'est un effort de penser tellement difficile à faire que la plupart du temps, en fait, les gens abandonnent. Parce qu'en fait, c'est contre-intuitif, en fait. Donc, elle, c'est vraiment comme une pédagogie, en fait, de la pensée.
Une déconstruction puis pédagogie, c'est-à-dire désapprendre et apprendre.
Exactement, exactement. Et invention. C'est pour ça, en fait, qu'elle va, elle va extraire des notions qui viennent parfois de la science-fiction, parfois des mangas japonais, parfois dès la notion cyborg, on peut parler en fait, par exemple, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que cette notion, en réalité, bon, en français on dit cyborg en fait, mais c'est la contraction des organismes cybernétiques, donc cybernetic organism, donc ça donne cyborg, et en réalité, cette notion a été inventée en 1960 dans un laboratoire des neurologies, dans lesquelles deux chercheurs travaillent avec les théories des Norbert Wiener, c'est-à-dire des théories cybernétiques, en fait, pour implanter sur un souris, en fait, une pompe osmotique qui permettrait de réguler aussi bien la température que les stabilités physiologiques de ces petits organismes, en fait, d'un souris, qui est pensé, en fait, pour être envoyé dans l'espace et survivre, en fait, à l'espace, au voyage spatial. Donc, c'est ça le premier cyborg, en fait.
C'est une souris.
C'est une souris. C'est
une souris, souris à qui on a injecté un dispositif pour qu'il s'adapte mieux à l'environnement dans lequel il va être envoyé.
Exactement. C'est ça.
J'anticipe, Paul Preciado, en fait, ce que l'on fait à chaque fois. C'est-à-dire que même, on pourrait dire le fait même de manger, par exemple, ce serait
ferait-nous des cyborgs?
Ça serait, je pense que en fait,
je vais trop loin sur la nourriture.
Je pense peut-être oui, parce que je pense qu'en fait la difficulté de cette notion du cyborg, en fait, c'est soit on la fait trop générale et ouais. elle sert plus à rien, soit on la fait trop spécifique et évidemment l'image qu'on a.
Ça concerne personne.
Exactement, parce qu'elle devient en fait, écoute, Terminator, ou elle devient en fait un cyborg pensé juste comme une entité totalement cybernétique et donc presque comme l'ordinateur, alors qu'absolument pas. Mais en fait, c'est cette hybride en fait des natures, cultures, cette hybride des technologies, d'organismes en fait. Mais il faut en fait qu'il y a une régulation intentionnelle de la physiologie. Et donc peut-être qu'en fait, évidemment, si on pense à la gastronomie est effectivement une
manière
une technologie. Et effectivement,
on l'incorpore donc.
Tout à fait. Donc, dans ce sens-là, peut-être oui, si on pense par exemple en fait à l'histoire coloniale du sucre, au fait en fait à comment les corps a été modifié par l'ingestion constante en fait à partir du 16e, 17e siècle en fait du sucre et comment ça a modifié complètement les corps dans la modernité, on pourrait dire que oui, en fait, il y a dans le fait de manger effectivement un effet cyborgologique en fait, ou cybernétique en fait. Mais je pense que c'est important de penser à ces premiers cyborgs en fait, c'est cette souris des laboratoires, parce que quelque part est-ce que Donna Haraway va nous dire en fait, c'est nous sommes cette souris des laboratoires. En fait, nous ne sommes pas différents de la souris des laboratoires. Donc, regardons-nous nous-mêmes en tant qu'un organisme en fait cybernétique, mais qu'on construit collectivement nous-mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la technologie, c'est pas quelque chose en fait qui viendrait de l'extérieur et qui serait totalement différente de corps, mais en fait les corps que fabriquons nous-mêmes et en fait, constitutivement technologique. Parce que la technologie, ce n'est pas une machine. La technologie, c'est un rapport social.
Mais alors ça, c'est assez dingue parce que vous avez dit, Paul Preciado, que à l'époque où vous découvrez Donna Haraway, elle est lue partout, tout le temps, en même temps que Judith Butler.
Ouais.
C'est un texte, je l'ai dit au début, qui est quand même devenu le Manifeste Cyborg, une référence mondiale.
Ouais.
Pourtant, cette idée-là, déjà, on ne la connaît pas forcément, en fait, vraiment dans le monde. Ce Manifeste Cyborg, vous l'avez dit, il peut être difficile à lire. On ne l'a pas forcément entre les mains. Et puis, il y a une question d'édition aussi qui se pose, de traduction.
Tout à fait.
Et cette idée-là de l'être technologique, ou en tout cas du cyborg, où la machine, en fait, ne serait pas à côté de la vie, opposée à la vie, c'est une idée, en fait. Par exemple, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Pourquoi on ne le rappelle pas, ça? Pourquoi on le dit pas?
C'est pour ça, il me semble en fait que ces textes, en fait, c'est un des textes les plus urgents à relire aujourd'hui.
Puis elle parle d'ailleurs d'intelligence artificielle.
Bien sûr. Et surtout, il faut pas oublier en fait qu'au moment où elle va publier ces textes, c'est-à-dire il faut se souvenir en fait de son geste absolument radical. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une revue socialiste aux États-Unis. Bon, les socialismes existent aux États-Unis malgré tout.
Et donc, en 83, quand on lui a demandé d'écrire l'article.
Exactement. Donc il y a une Socialist Review, donc une revue socialiste. En fait, et cette revue socialiste avait planifié faire un dictionnaire avec des mots différents. Et donc, ils vont choisir les mots genre, en fait, gender. Et donc, ils demandent à Donna Haraway d'écrire l'entrée gender de dictionnaire pour la revue socialiste. Et Donna Haraway décide, en fait, contre toute attente, en fait, elle décide de répondre à cette demande par l'écriture du Manifeste Cyborg, en fait. C'est absolument extraordinaire. Donc, j'imagine, en fait, que, évidemment, les gens de la revue socialiste, en fait, sont restés totalement éblouis par ça, en se disant, mais bon... Parce qu'aussi, elle va mettre à mal, aussi, beaucoup des notions avec lesquelles travaille la gauche traditionnelle, et notamment la pensée marxiste, qui va faire évidemment une analyse très critique de la production, mais qui va jamais mettre en question justement la dimension technologique, économique, politique de la reproduction sociale et sexuelle. Et c'est là où le Manifeste Cyborg est important, parce qu'en fait, elle va mettre au centre de la pensée la reproduction et la reproduction sexuelle.
Oui. Alors, j'aimerais juste, avant qu'on écoute un texte de ce Manifeste Cyborg, Paul Preciado, qu'on revienne juste sur ce paradoxe. Donna Haraway, très lue, pertinente, encore aujourd'hui, beaucoup ultra pertinentes, et pourtant pas audibles ou pas reçues. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Est-ce que pas assez lues, pas assez comprises?
Je ne crois pas, en fait, et pas assez lu. Peut-être, en fait, c'est un texte qui va être encore plus lu, en fait, dans le futur, en fait, qu'elle a été avant. Mmh, mmh. Je pense, si on pense, en fait, au moment où les textes ont été publiés, il y avait deux événements, en fait, qui étaient capitales. Le premier était évidemment la crise des sida, évidemment. Donc, la question du virus, le paradigme du virus. Pensons aussi qu'un virus est une entité qui est ni vivante ni non vivante, ni une cellule, ni exactement une bactérie, ni donc une entité qui en elle-même défie aussi les binarismes traditionnels de la modernité, ceux qui ont défini aussi la taxonomie biologique en fait, hein, d'accord. Donc c'est à ça aussi qui est dans la highway s'oppose. Donc il y a d'une part la crise du sida et d'autre part évidemment l'invention d'Internet. Donc c'est presque en fait à l'intérieur des d'une part la politisation du corps séropositif. Et il faut se souvenir que peut-être les gens le savent pas, je pense que la vie elle-même des Donna Haraway est un paradigme en fait pour l'avenir en fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se définit pas en tant qu'hétérosexuel, homosexuel, qui est marié en fait à un s'est marié très tôt en fait à un garçon gay en fait avec lequel elle va construire sa vie. Lui, il a d'autres partenaires, elle a d'autres partenaires, ils vivent tous les deux avec d'autres couples en fait et avec des animaux en fait avec lesquels ils s'entretiennent en fait des rapports multi-species. Pas simplement en fait polyamoureux comme on dit aujourd'hui en fait, mais multi-espèces, c'est-à-dire un amour multi-espèces dans lequel en fait les différences entre animal, humain, hétérosexuel, homosexuel en fait commencent à être mises en
question.
Exactement, à être mises en question, parce que une des leçons de Donna Haraway en fait c'est se méfier toujours en fait des représentations de la nature. Elle dit en fait la nature est une fiction inventée précisément pendant la modernité industrielle. Donc au moment où la nature va être transformée des manières la plus violente en fait qui soit par l'extractivisme, par la modification et la transformation industrielle, c'est à ces moments-là en fait qu'on va inventer presque en fait comme un mythe des natures qui va servir justement à imposer un ensemble de catégories politiques hiérarchisées, donc la différence entre masculin et féminin et donc la domination historique dont les patriarcats des hommes, des femmes par des hommes, mais aussi la différence par exemple entre homosexualité et hétérosexualité, la différence entre l'animal et l'humain, en fait, considérant que l'humain est en fait au sommet de la hiérarchie évolutive. Donc c'est toute cette taxonomie en fait qu'elle nous invite à déconstruire et à surpasser à travers, en fait, cette métaphore politique du cyborg. Donc, elle extrait cette souris des laboratoires, parce qu'en fait, ça pourrait... C'est-à-dire, il y a, comme il y a du cyborg, en fait, il y a, dans les laboratoires scientifiques aujourd'hui, des milliers d'entités vivantes, non vivantes, animales, non animales, humaines, non humaines, en fait, qui sont en train d'être créées. Et en fait, les génies de Donna Haraway, en fait, c'est extraire cette notion, aussi bien, en fait, du laboratoire que de la littérature cyberpunk qui commence en fait à se faire à l'époque en fait en rapport avec Internet aussi, et le mettre au centre d'un débat politique pour dire regardons comment on construit la nature à travers d'un ensemble des technologies des pouvoirs. Et donc évidemment son objectif avec tout ça, c'est pas un objectif juste épistémologique ou juste si vous voulez en fait un regard
c'est pas juste déconstruire les sciences,
exactement,
les savoirs,
non,
et repenser dont on
pas.
Parle
non
la, il y a quelque chose de politique,
absolument. Les centres de la pensée de Donna Haraway en fait c'est une redistribution radicale de la souveraineté à tous les corps en commençant par les corps de la Terre, en traversant les corps en fait de toutes les espèces, et évidemment ces corps qui, par les hiérarchies de la taxonomie de la modernité, ont été subalternisés. C'est-à-dire les corps non blancs, les corps des femmes, les corps séropositifs, les corps malades, les corps des enfants, les corps des personnes
vieillissantes,
handicapées, les aliments, etc. Donc c'est vraiment au centre de cette pensée, il y a les désirs et les programmes d'une révolution politique, mais qui ne peut se faire qu'à condition en fait, de transformer les catégories avec lesquelles on pense la nature.
Je plaide pour une fiction cyborgienne qui cartographierait notre réalité corporelle et sociale. Une ressource imaginaire qui permettrait d'envisager de nouveaux accouplements fertiles. La biopolitique de Michel Foucault n'est qu'une pâle prémonition de la politique du cyborg, ce vaste champ. La fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique est arrivé et nous ne sommes que chimères, hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués, en bref, des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie, il définit notre politique. Le cyborg est une image condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunie, et cette union structure toute possibilité de transformation historique. Dans la tradition occidentale des sciences et de la politique, tradition de la domination masculine, raciste et capitaliste, tradition du progrès, tradition de l'appropriation de la nature comme ressource pour les productions de la culture, tradition de la reproduction de soi par le regard des autres, la relation entre organisme et machine fut une guerre de frontières. Elle avait pour enjeu les territoires de la production, de la reproduction et de l'imagination. Ce chapitre est une plaidoirie et pour le plaisir à prendre dans la confusion des frontières et pour la responsabilité à assumer quant à leur construction. C'est aussi une tentative de contribution à la culture et à la théorie féministe socialiste sur un mode post-moderne qui ne se réfère pas à la nature, dans la tradition utopiste d'un monde sans genre sexué, qui peut être un monde sans genèse et sans doute un monde sans fin. L'incarnation du cyborg est extérieur à l'histoire de la rédemption.
Extrait du manifeste Cyborg de Donna Haraway, dont vous avez choisi de parler, Paul Preciado. On est ici à peu près dans les premières lignes du manifeste Cyborg. Pourquoi avoir choisi ces premières lignes ?
En fait, c'est un texte foisonnant. En fait, c'est un texte dont l'écriture aussi est proche, en fait, parfois de la science-fiction, dont elle s'inspire. Et donc, je voulais vous faire entendre, en fait, comment ces textes commencent. C'est-à-dire que ces textes, quelque part, il y a quelque chose, en fait, une porte de la perception. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, dans l'essence d'Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'on traverse, en fait, une porte et, en fait, on a l'impression de, pour la première fois, accéder à un autre niveau des pensées, à un autre niveau des réalités. Donc, il y a...
Comme si on avait pris une drogue, presque.
Exactement. Donc, il y a une intensité dans ces textes, en fait, quelque chose d'énivrant dans la pensée et dans les paroles. Et effectivement... ça c'est quelque chose en fait que j'aime beaucoup faire et que j'ai fait beaucoup en fait avec mes étudiants de philosophie. C'est la philosophie, c'est fondamental de ne pas comprendre tout.
Ça c'est bien de le dire.
C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'en fait souvent les gens qui commencent en fait à lire de la philosophie, notamment c'est un des textes philosophiques les plus importants vraiment contemporains. Et évidemment souvent, quand on va commencer à lire un texte de philosophie, on va dire « Ouh là là, non, mais attends, là, je comprends rien, donc j'abandonne. » Effectivement, ça, c'est le ne rien comprendre, en fait, d'un texte de philosophie, c'est la condition même des possibilités de la lecture, de la transformation de la pensée. Donc, il faut, à tout prix, en fait, prendre ces textes et se dire « C'est pas grave si je ne comprends pas. » En fait, il y a un moment, en fait, où les textes qui fonctionnent lui-même comme un cyborg, c'est-à-dire que, est-ce que Une des manières de comprendre les cyborgs, en fait, quand on pense à ces rapports entre nature et culture, entre organisme et machine, organisme et technologie, en fait, c'est penser en fait au rapport que nous avons au langage. Le langage est certainement en fait la technologie politique la plus radicale que nous avons inventée jusqu'à maintenant. Et quelque part, en fait, l'intelligence artificielle découle, en fait, quelque part, si vous voulez qu'on en parle de ça, mais découle, en fait, de cette invention du langage. Les langages, en fait, nous sont quelque part implantés, en fait, on pourrait dire au moment presque de la conception, en fait, ou au moment où, en fait, où on grandit en tant que fœtus, encore une autre figure de cyborg, hein, puisqu'en fait, vivant et non vivant en même temps, masculin et féminin en même temps, ou rien de tout ça. En fait, vous voyez, essayez de commencer à penser, à vous penser vous-même, en fait, votre corps, vos interactions sociales et politiques, en fait, comme des cyborgs, en fait. Et donc, les rapports que nous avons au langage est un rapport cyborgologique. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dit William Burroughs, une fois en fait qu'on a appris à parler, on est foutu en fait. On est à l'intérieur du langage. Et donc ces textes de Donna Haraway fonctionnent quelque part en fait comme un antidote aux taxonomies de la modernité. Et c'est pour ça en fait que quelque part les textes qu'on en commence à les lire, en même temps en fait, produit presque comme une violence neuronale. Si vous voulez, en fait.
Mais comment on doit le lire alors, Paul Preciado? C'est-à-dire que on le lit en se disant, parce que la forme du manifeste c'est important. D'ailleurs, votre premier livre c'est Manifeste contre sexuel. On a l'impression que quand on va l'ouvrir, on va avoir un texte qui aurait pu être déclamé dehors, dans la rue et tout. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut lire? Est-ce qu'il faut lire avec un crayon? Est-ce qu'il faut se dire là j'ai compris ça, là j'avance? Parce que par ailleurs, le texte, même si difficile, même si alambiqué, là on peut. Les auditeurs, les auditrices ont entendu des phrases. Par exemple, nous ne sommes que chimères, hybrides, ça percute.
Ouais. En fait, c'est un texte aussi qui a été énormément lu par les artistes, qui a été lu en atelier, qui a été lu en association politique, qui a été lu vraiment comme un manifeste dans les sens, en fait, où les langages deviennent action directe.
Oui, c'est ça, performatif.
Tout à fait, c'est un texte très performatif, puisque c'est un texte qui transforme par l'écoute et par la parole. Donc je pense qu'en fait, ces textes en fait, peuvent se lire comme la poésie conceptuelle. Moi, je pense aussi que la poésie est radicalement politique, donc voilà, ça peut se lire comme ça. Ça peut se lire, je pense qu'il devrait se lire, en fait, et qu'il pourrait se lire collectivement, c'est-à-dire qu'on pourrait, en fait, de manière collective, c'est-à-dire on va lire les textes, en fait, dans une manif, par exemple, en fait, parce que ça modifie aussi les manières dans lesquelles on imagine les possibilités de résister et de lutter dans la société contemporaine. Parce que si on imagine les corps uniquement comme en nature, et ça nous arrive en fait de la même manière si on pense par exemple aux luttes féministes, aux luttes antiracistes, aux luttes homosexuelles, aux luttes aujourd'hui queer, trans, etc. En fait, quel est le sujet politique de ces luttes? Si on l'imagine de manière naturelle, alors, en fait, si vous voulez, en fait, il y aurait une alliance possible, par exemple, uniquement entre femmes, pensées femmes de manière naturelle, en fait, pour organiser et structurer une lutte en termes d'identité politique. Alors que Donna Haraway nous invite plutôt, en fait, à imaginer des luttes des cyborgs. C'est-à-dire, en fait, des luttes dans lesquelles les alliances sont des alliances, en fait, synthétiques. Des alliances construite.
Donc de cyborgs qui ne se référaient. D'ailleurs, on l'entend très bien à la fin du texte qu'on a diffusé. Elle le dit, c'est aussi une tentative, ce manifeste cyborg, de contribution à la culture et la théorie féministe socialiste sur un mode postmoderne qui ne se réfère pas à la nature. Alors ce texte, quand on le lit aussi, il est déconcertant parce qu'en fait, je dirais pas qu'il est antiféministe, loin de là.
Absolument.
Par contre,
il est fondateur en fait du féminisme, fondateur du féminisme queer, fondateur du féminisme trans, fondateur de ce qui a été appelé à l'époque le féminisme cyborg.
Ouais, ouais. Le cyberféminisme.
Cyberféminisme.
Mais par contre, il est très critique à l'égard de certains mouvements féministes. Elle parle de Katharine McKinnon, par exemple.
Ouais, tout à fait.
On sent aussi poindre Andrea Dworkin. Donc voilà, des féministes notamment qu'on connaissait dans les années 80, qu'on connaît encore évidemment aujourd'hui. aujourd'hui, mais qui étaient donc les anti-sexes, anti-pornographie.
Ouais.
On voit bien quand même aussi que elle veut renoncer à une forme de féminisme qui se référerait à un tout. Mais même d'autres féministes, c'est-à-dire arrêter de penser en termes d'union. C'est ce qu'elle nous dit. Ça, c'est vraiment arrêter de vous dire que on va devoir se ressembler pour faire une union et donc avoir une langue commune.
Oui, je dirais pas exactement de union, parce qu'en fait l'union est possible, mais des homogénéités, en fait. Donc l'homogénéité n'est pas une condition nécessaire pour l'alliance politique. Au contraire, en fait, c'est un féminisme radicalement hétérogène auquel elle se réfère, dont les alliances ne dépendent pas, en fait, d'une idée des natures, d'une idée des identités naturelles. C'est-à-dire, par exemple, soyons vraiment clairs, si l'idée selon laquelle, par exemple, c'est les corps féminins en tant que corps avec un vagin, en tant que corps qui peut, par exemple, en fait, faire l'objet par l'utérus d'une reproduction sexuelle, qui serait, si vous voulez, en fait, les traits d'union naturel du sujet féministe. Alors, ça, c'est quelque chose, en fait, justement, auquel Donna Haraway se pose de manière très radicale. Elle dit, en fait, ça, c'est justement un mythe des natures qui permet encore la domination des femmes. Et face à ça, et ce qu'elle propose, en fait, c'est prendre conscience collectivement des technologies qui nous constituent. Et donc, elle va penser, par exemple, en fait, et donc c'est quelque chose qui résonne aussi dans mon manifeste, mon manifeste contrasexuel, en fait, que les corps et les organes ne sont pas genrés, en fait, contrairement à ce qu'on imagine.
Mais alors, expliquez-nous, parce que ça, c'est vraiment intéressant. C'est une idée que vous poursuivez, vous, dans votre manifeste contrasexuel, Paul Preciado, mais vraiment en continuité avec Donna Haraway. Et d'ailleurs, il y a un chapitre qui lui est consacré. Pourquoi on a sexualisé certains organes? Pourquoi on les a sexualisés de manière hétéro tout court, pourquoi le pénis serait sexuel et pourquoi le vagin le serait?
En fait,
et pourquoi il ne le serait pas, surtout, en fait?
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Donna Haraway est primatologue, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été formée en tant que, en même temps, anthropologue et biologiste, quelque part, en fait, et elle va commencer à travailler beaucoup, en fait, sur les grands singes et sur les liens des parentés entre les grands singes. Donc, elle travaille sur un domaine qui, par définition, est un domaine des natures. Et elle se rend compte, en fait, c'est que pour penser les primates et les rapports de parenté des grands singes, en fait, on va utiliser à l'époque, en fait, toutes les catégories sociales et politiques de la société du 18e et 19e siècle. C'est-à-dire des notions des races, des notions des classes, des notions des masculinités et féminités normatives et des notions des hétérosexualités. Alors que ces notions-là, évidemment, on pourrait dire, en fait, que c'est juste un absurde, en fait, d'imaginer que les singes sont hétérosexuels, par exemple, ou homosexuels. Et donc, du coup, elle va faire, en fait, si vous voulez, une critique des notions patriarcales, hétérocentrées et racistes, en fait, qui sont dans la fondation de la science du 19e, du 18e et 19e siècle.
Et de science qu'on dit naturelle et qui serait donc presque donnée, qu'on n'aurait qu'à lire objectivement.
Elle va dire, en fait, en réalité, dans cet imaginaire de la nature, il n'y a que des notions politiques. Ces notions sont radicalement politiques. Et donc, elle nous invite, en fait, à regarder les corps comme un corps qui est non-genré, radicalement non-sexuel, non-genré, non-racialisé.
Mais j'insiste, je vous interromps, pardon, ouais. Paul Preciado, mais parce qu'il y a quelque chose qui me frappe, c'est-à-dire que vous dites non-genré, mais vous dites non-sexuel. On peut avoir tendance à se dire, à diviser, à distinguer le sexe et le genre, en se disant, en fait, il y a des genres qui sont construits, le genre féminin, le genre masculin, et puis il y a quand même le sexe.
Ouais.
Et c'est-à-dire qu'on aura beau être d'accord avec une dimension constructiviste des genres, on va quand même s'en sortir en disant bah, « je suis quand même née fille, je suis quand même née garçon, donc il y a quand même un sexe qui va résister et qui, lui, serait naturel ».
Vous avez totalement raison et je pense que c'est très important parce que plus en fait on a avancé dans la déconstruction du genre, en fait, plus quelque part on a renaturalisé les sexes. Mmh. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est au centre vraiment de mon travail en continuité avec Donna Haraway et qui justement, en fait, je voulais faire quand j'ai commencé à écrire les manifestes contrasexuels, en fait, c'était justement dénaturaliser pas uniquement les genres. Évidemment, les genres est une construction sociale et culturelle, mais aussi les sexes. Et pour faire ça, c'est fondamental, en fait, aller à l'histoire de la science et à comment les notions des masculinités et des féminités, par exemple, au moment où on va découvrir la différence entre, où on va construire la différence entre l'ovule et les spermatozoïdes, en fait, a été créée. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on a genré, dans le sens où on a genré les sexes. Donc, si on, vous commencez, en fait, à dénaturaliser les sexes, à les dégenrer, est-ce que dit Donna Haraway, qu'est-ce qui reste du sexe, en fait? Bah, les cellules en elles-mêmes, c'est-à-dire l'ovule, ou les, ça c'est drôle, en fait, parce que ça apparaît même, en fait, dans les discours de Trump aujourd'hui, en fait, qui est dans son obsession à vouloir absolument, en fait, si vous voulez, redéfinir ou créer, en fait, une épistémologie absolument binaire des sexes, en fait, bah aller au moment, en fait, de la conception sexuelle, de la conception reproductive, en fait, au moment de l'ovule et de l'spermatozoïde. Mais c'est-à-dire, pourquoi on a pensé que l'ovule est féminin et les spermatozoïdes est masculin?
Vous voulez dire même pourquoi on a mis ces adjectifs? Donc c'est aussi une question de langue, une question de normes.
Absolument.
En fait, pourquoi on les a, genrés, en fait? Alors qu'on aurait pu juste se dire, c'est la rencontre de...
Et ce que dirait Donna Haraway, en fait, c'est effectivement, c'est un effet des symbioses reproductives, en fait, entre deux cellules. Mais ces rapports des symbioses reproductives existent, et les multispèces, ils existent à travers toutes les espèces et tous les corps de manière différente, en fait, entre les bactéries, entre les virus, entre aux différents niveaux de la cellule, en fait, sans que ces rapports doivent être de manière explicite genrés. Donc, en fait, elle fait un effort aussi. Elle a participé, en fait, à une bataille encore ouverte aujourd'hui à l'intérieur de la science. Et je pense que ce qu'on va voir aujourd'hui, si on pense à la situation politique que nous vivons, en fait, c'est cette bataille, en fait, qui a commencé, on pourrait dire, dans les années 70, et qu'au moment, en fait, où Donna Haraway écrit son manifeste et est une bataille brûlante, en fait, ce qu'on va voir, en fait, c'est comment cette bataille s'est traduite aujourd'hui, en fait, en nouvelles normes et des nouveaux dispositifs de contrôle, en fait, dans l'espace politique. Puisqu'en fait, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, si vous voulez, encore il faudra les dire, parce que c'est le 7 mars, en fait, donc il y a une grande manifestation, en fait, des scientifiques, pas simplement aux États-Unis, mais partout dans le monde, des scientifiques, mais aussi des chercheurs qui travaillent dans les sciences humaines, dans les soi-disant sciences humaines, qui ne pourront plus utiliser certaines notions, comme les notions, en fait, des critiques antiracistes, comme les notions du féminisme.
Oui, il y a un certain nombre de mots qui sont censurés, en fait. Il y a une liste de termes que les chercheurs aux États-Unis ne pourront plus utiliser.
Exactement. Et je pense, en fait, qu'il serait intéressant, en fait, de reprendre aujourd'hui les manifestes cyborgs de Donna Haraway comme un élément capital et crucial, en fait, pour penser cette bataille, cette nouvelle bataille politique qui quelque part, est une bataille pour la redéfinition, je dirais, de souveraineté des corps, c'est-à-dire de quels corps sont souverains et quels corps vont être considérés comme purement naturels. Parce que, évidemment, si les corps féminins est totalement naturel, si les processus de génération, si l'utérus est totalement naturel, à ce moment-là, on ne pourra plus discuter, on ne pourra pas parler des processus d'émancipation des femmes. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, à ce moment-là, évidemment...
Bah, on est condamné au processus naturel, donc
exactement.
Ça se passe comme ça, et puis on ne peut pas intervenir.
Exactement. Mmh. C'est ça qui, en fait, peut-être le féminisme le plus réactionnaire devrait comprendre aujourd'hui, en fait, c'est que se mettre des côtés de la nature et ne ne pétaient pas les meilleurs endroits pour commencer une bataille politique.
Même l'écoféminisme, par exemple ?
Bien sûr, parce que l'écoféminisme, on dirait qu'il y a deux, on pourrait dire, il y a deux écoféminismes, en fait. Il y a un écoféminisme qu'on pourrait dire aussi, quelque part, impacté par beaucoup par la pensée des Donna Haraway ou des Anna Sin ou des Lynn Margulis, en fait, qui est un écoféminisme, en fait, radicalement critique de l'idée de nature. Et il y a un écoféminisme, en fait, naturaliste, qui va penser la nature, les animaux, les femmes, en fait, dans une continuité naturelle, et qui va penser plutôt, en fait, si vous voulez, à se défaire de l'intromission, en fait, de la technologie. Alors qu'en fait, ce qui est dit dans la Highway, c'est ne cherchons pas, en fait, un mythe des natures dans lesquelles on va se réfugier, mais plutôt pensons collectivement quelles sont les technologies qui nous constituent et comment on va pouvoir en fait les distribuer pour produire souveraineté collective en lieu de pour les privatiser, pour les extraire et pour permettre quelque part la domination de certains corps sur d'autres.
On va écouter un autre texte, Paul Preciado, du Manifeste Cyborg.
Le cyborg est résolument du côté de la partialité, de l'ironie, de l'intimité et de la perversité. Il est dans l'opposition, dans l'utopie, et il ne possède pas la moindre innocence. Parce qu'il n'est plus structuré par la polarité du public et du privé, le cyborg définit une cité technologique en partie basée sur une révolution des relations sociales au sein de l'oikos, du foyer. Nature et culture sont refaçonnées. L'une ne peut plus être la ressource que l'autre s'approprie et assimile. Les relations, y compris celles de polarité et de domination hiérarchique, qui permettent, avec des parties, de former des touts, sont à l'ordre du jour dans le monde cyborgien. Contrairement au monstre de Frankenstein, le cyborg n'attend pas de son père qu'il le sauve en restaurant le jardin originel, c'est-à-dire en lui fabriquant une compagne hétérosexuelle, en faisant enfin de lui un tout fini, une cité, un cosmos. Le cyborg ne rêve pas d'une communauté établie sur le modèle de la famille organique, mais il n'en a pas pour autant un projet oedipien. Le cyborg ne reconnaîtrait pas le jardin d'Éden, il n'est pas fait de boue, et il ne peut rêver de retourner à la poussière. C'est peut-être pour cela que je veux voir si les cyborgs peuvent subvertir l'apocalypse du retour à la poussière nucléaire engendrée par la compulsion obsessionnelle à nommer l'ennemi. Les cyborgs ne sont pas respectueux. Ils n'ont pas de souvenir du cosmos. Ils se méfient de l'holisme, mais ont besoin de connexion. Ils semblent avoir un penchant naturel pour la politique du front commun, mais sans troupes d'avant-garde.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Autre extrait du manifeste Cyborg, lu par Anaïs Isbert, un texte de Donna Haraway paru en 1985. C'est vous qui avez choisi ce texte, Paul Preciado. Si je résume entre le premier texte qu'on a écouté de Donna Haraway et celui-ci, le manifeste Cyborg nous dit « pas de famille ». Pas de communauté sur le modèle de la famille organique, pas de respect, pas de holisme, pas de tout, pas de rédemption, pas de troupes d'avant-garde. Mais alors que reste-t-il au cyborg ? C'est-à-dire que lui reste-t-il comme pouvoir d'action justement pour transformer toutes ces technologies de domination en technologie de soi, en résistance, en répartie ?
Relationnalité, une ontologie de la relationalité. C'est-à-dire ne pas une ontologie naturelle qui penserait au lien du son et du sol, en fait. Et ça résonne beaucoup, en fait, avec l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire une ontologie qui va penser la féminité naturelle, la masculinité naturelle, qui va penser l'identité en rapport à la nation, par exemple, qui va penser l'identité en rapport à la race, mais plutôt une ontologie relationnelle qui pense, en fait, qu'on est défini par l'ensemble des relations qui nous constituent uniquement et pas du tout en fait par une identité naturelle. Et donc c'est ce qu'il faut en fait, donc toute la tâche du politique en fait, c'est la construction de ces liens.
Un point de vue presque, mais peut-être que c'est un mauvais point de départ, Paul Preciado, mais d'un point de vue individuel.
Est-ce que c'est un mauvais
point de départ. Moi, j'ai un mauvais point de départ. Oui, mais comme modification qu'on peut avoir, parce que vous l'avez dit, quand on ouvre Donna Haraway et le manifeste Cyborg, déjà, ça présuppose quand même on ne comprend rien, on est bousculé, ça nous fait accéder à une autre réalité. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe dans une tête. Voilà, individuellement. De là, il y a quand même une reconfiguration. Qu'est-ce que ça change, en fait? Comment on devrait le prendre, l'utiliser?
En fait, en réalité, à la notion d'individu, il arrive la même chose en fait qu'à la notion de nature. C'est encore un mythe fondateur de la modernité qui nous empêche d'y agir politiquement. On ne peut pas, avec les mythes des natures, les mythes de l'individualité, on ne peut pas travailler politiquement. Au contraire, en fait, on est replié sur la recherche d'une identité originale, la recherche de ma liberté individuelle, privée, alors qu'en fait, ce qui est, quand on dit cyborg, on dit surtout, en fait, connexion technique, relation sociale. Donc, en réalité, par exemple, dans la lecture, ce qui se passe n'est pas du tout quelque chose d'individuel. La lecture, c'est quelque chose, c'est juste en fait comment c'est à s'ouvrir en fait à une archive politique, collective. Donc ne pensons pas à quelle va être la transformation individuelle, mais plutôt à l'ensemble des relations en fait épistémiques, à l'ensemble des modifications. Presque en fait, il y a une pensée très cyberpunk en fait pour Donna Haraway. Elle imagine en fait que la lecture d'un texte en fait c'est vraiment comme quoi si en fait qu'on en fait presque une connexion USB. Vous voyez ce que je veux dire en fait que voilà qu'on va mettre en fait un chip. Et en fait, bon, si on pense à ce
qu'on insère une puce et bam.
Exactement, et bam. Et quelque part, c'est ce qui arrive en fait avec les langages. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça la puissance transformatrice en fait de la parole, de la lecture, de la philosophie. Donc c'est cette capacité de transformation, mais pas du tout en fait en tant qu'individu qui va chercher à se modifier lui-même, en fait, presque en fait, en tant que start-up, j'ai envie de dire, en fait,
Mais c'est l'individu néolibéral, c'est-à-dire, on se travaille, on façonne.
Voilà, entre entreprises privées, en fait. Si vous voulez, en fait, dans la lecture de Donna Haraway, on s'aperçoit déjà, en fait, comme quelque chose qui est radicalement non individuel, radicalement non naturel. Donc, radicalement social et politiquement construit, radicalement fait par les relations que nous avons aux autres, et donc ouvert, en fait. Et donc, dès là, cette vulnérabilité, en fait, qu'on perçoit aussi quand on lit Donna Haraway, c'est-à-dire que c'est une si vous voulez, une empowerment, en fait, donc la prise des pouvoirs, en fait, par la reconnaissance de cette dimension radicalement ouverte, en fait, et relationnelle, donc non naturelle, non identitaire, du sujet.
Mais est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre individualité, à notre singularité? Qu'est-ce qui reste, en fait, s'il n'y a plus d'individus, mais à une époque comme la nôtre qui investit autant les individus? Et on peut être conscient de ça, le déplorer, mais malgré tout, en fait, on va devoir faire ses preuves soi-même, seul. En fait, il y a quelque chose de l'individu prime. Donc, qu'est-ce qui reste de ça? Comment on articule cette ouverture à l'autre avec l'idée d'une, alors, singularité ou l'idée quand même d'une existence quotidienne qui sera individuelle?
En fait, encore une fois, en fait, si vous voulez, vous pouvez vous enfermer en fait dans les mythes de l'individu et encore de l'individu qui s'est construit lui-même,
souverain.
En fait. Souverain. Souverain, ça sera difficile à dire, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de souverainetés individuelles. Mais je pense que je ne sais pas pourquoi, en fait, ce n'est pas du tout. Moi, je n'ai jamais cette tentation-là.
Vous ne pensez pas qu'on est quand même accroché à nos identités?
Peut-être, en fait, évidemment.
On se dit qu'on a un moi, on veut s'inventer.
C'est sûr. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que philosophiquement, c'est quelque chose qui ne me branche pas du tout. Je suis pas du tout intéressé. Et ni, même pas intéressé dans la déconstruction du mythe de l'individu. En fait, mais paraît beaucoup plus intéressant, quelque part, et commencer à regarder, y compris en tant qu'individu, si vous pensez en tant qu'individu, en fait, quels sont l'ensemble des technologies sociales et politiques qui vous constituent. En fait, presque, j'inviterais quelqu'un, en fait, n'importe qui, à dire, en fait, à faire un examen exhaustif, en fait, des technologies politiques qui les constituent. En fait, en commençant par les institutions à l'intérieur desquelles s'inscrit, par les rapports du travail, donc des dominations, d'extraction du capital dans lesquels il s'inscrit, où elle s'inscrit, où il s'inscrit, dans les rapports institutionnels, donc de famille, comme on disait tout à l'heure dans la Highway.
On pourrait même faire une liste, en fait.
Absolument.
C'est-à-dire prendre une feuille blanche, se dire je m'inscris dans quoi, j'ai
absolument.
Été façonné
absolument.
Par qui, par quoi.
Ouais, il y a quelque chose dans les manifestes de dans la Highway qui est merveilleux. En fait, elle fait un map, en fait, une map, un diagramme, en fait, des transformations qui sont à l'œuvre. Mmh. Et elle dit, en fait, quelles étaient les notions, en fait, qui primaient pendant la modernité industrielle et quelles seront les nouvelles notions.
Je vous les donne,
en fait.
Je vous les montre.
J'ai voilà, mais vous pouvez les lire.
Oui, par exemple, il y a représentation. Voilà, monde d'avant, simulation, ouais. Monde d'après.
Exactement.
Roman bourgeois réaliste, monde d'avant, science-fiction, postmoderniste, monde d'après.
Voilà.
Et ça dure, voilà, sur une page et demie.
Exactement. Bon, donc elle fait cette liste-là. Presque, en fait, j'invite les auditeurs, en fait, à reprendre le manifeste Cyborg de Donna Haraway, à reprendre les deux listes, en fait, donc la liste d'avant, la taxonomie de la modernité, et celle contemporaine, c'est-à-dire vu que nous sommes en mutation, et c'est quelque chose de très important pour Donna Haraway, c'est-à-dire c'est une pensée du devenir, c'est une pensée de la mutation, et pas une pensée des essences, et donc du coup, évidemment, l'individu, bon, en tant
qu'essence... C'est une substance qui est figée.
Voilà, figée, donc c'est une image, en fait, idéale de vous, en fait. Par contre, en fait, prêtons attention aux mutations, au lieu de devenir, ou là où ça change. Et donc, je dirais, en fait, regardez les technologies politiques qui vous constituent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Peut-être, en fait, Prozac ou autre. Peut-être la pilule anticonceptive. Peut-être, comme dans mon cas, le testostérone ou autre. Peut-être, je ne sais pas, peut-être vous êtes séropositif. Peut-être vous avez une insuffisance cardiaque. Peut-être vous avez, par exemple, un pacemaker. Si vous avez un pacemaker, en fait, qui est à l'intérieur de votre corps, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est connecté, en fait, à un ordinateur et qui envoie des données dès votre mouvement cardiaque, en fait, à une entité qui se trouve, en fait, dans un hôpital qui est bien loin de vous. Ce qui veut dire, en fait, qu'en réalité, votre corps est de facto...
connecté.
Exactement. Ouais. Mais pas quand on dit connecté, en fait, il ne faut pas imaginer, en fait, que cette connexion, elle n'a pas d'importance. Non, non, cette connexion est une relation politique. C'est ça exactement qu'est les cyborgs. Et c'est la même chose, en fait, par exemple, les rapports que vous entretenez à votre téléphone, j'imagine que vous avez bien compris aujourd'hui que les téléphones n'est pas exactement un objet. Les téléphones est peut-être, en fait, on pourrait dire, en fait, un organe...
Un cyborg ?
Les cyborgs, en fait, c'est pas les téléphones. Les cyborgs, en fait, c'est vous, votre corps, en agencement politique avec les téléphones. Et dans cet agencement politique, et là, vous voyez totalement la dissolution totale de cette notion d'individualité. C'est-à-dire que par les téléphones, que vous imaginez comme la chose la plus individuelle qui soit, parce que si quelqu'un vous arrache votre téléphone, alors là, vous allez dire, c'est les miens, il y a toutes mes données, etc. Mais n'empêche, en fait, que cet objet-là, que je dirais un organe non anatomique, technique de votre corps connecté, en fait, cet organe-là, en fait, il est connecté aujourd'hui, évidemment, aux réseaux sociaux, évidemment, donc évidemment, je ne vais pas faire mention, mais évidemment, Elon Musk, etc., c'est-à-dire, et connecté aussi aux réseaux du marché, parce que évidemment, en fait, c'est, en fait, ce que vous savez dans la poche, en fait, c'est les marchés contemporains, en fait, vraiment en miniature, et connecté aussi au satellite, en fait, qui vient d'être envoyé, en fait, ce matin même, à la Lune, etc. Donc, votre corps, est-ce que vous imaginez comme un corps naturel, est en réalité, et votre système nerveux, donc vous, ce qui en fait Freud appelait l'appareil psychique, en fait, et que j'appelle aujourd'hui somatique, c'est-à-dire un appareil ne pas psychique mais somatique, qui serait cyborgologique, en fait, il est totalement extériorisée.
En fait, quand je vous écoute, Paul Preciado, et on va s'arrêter là après, j'ai l'impression en fait de me représenter non plus comme une petite île avec des petits palmiers, voilà, tranquille, mais vraiment comme une sorte de pieuvre tentaculaire rattachée à vous, à ce studio, à mon téléphone. Je suis un poulpe.
Vous êtes tout à fait, votre corps en fait il est distendé, il prend en fait la taille en fait pas simplement de la planète mais du cosmos, et donc c'est avec ces corps là qu'on peut agir politiquement, pas avec la fiction de l'identité naturelle, pas avec la fiction du corps individuel comme propriété privée, mais essayons de penser en fait à cette échelle planétaire connectée dans laquelle nous, les humains, de manière très étrange, en fait, on a un agencement politique multispèce avec plein d'espèces, des bactéries jusqu'au, évidemment, grand singe et autres, en fait. On construit agencement politique collectivement. Donc, ce qui serait les plus urgent, en fait, c'est réunir collectivement et se dire, bon, alors, qu'est-ce que nous allons faire avec les technologies politiques qui nous constituent?
Paul Preciado, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, Donna Haraway, le manifeste Cyborg, place à un auteur, à des auteurs, des autrices que vous n'aimez pas ou qui vous résistent, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi?
En fait, je voulais pas choisir un texte, un seul texte. En fait, pour moi, ça serait une tâche totalement impossible. Je pense, en plus, quand on regarde l'histoire de la philosophie politique, comme je le fais, en fait, d'une manière évidemment très critique, en fait, parce que c'est une histoire d'extermination, des dominations politiques, des éradications, des contrôles, etc. Et la plupart des textes que je lis,
il y a beaucoup de textes.
80% des textes en fait que je vais lire, en fait, c'est des textes que je déteste. Mais c'est pas grave en fait. Mm. C'est aussi justement, c'est pour ça que je suis pas du tout pour la cancellation, pour l'effacement des textes, parce que c'est absolument nécessaire. Et ça, on peut le dire aussi avec Donna Haraway. C'est absolument nécessaire en fait de lire, de comprendre ces textes pour pouvoir imaginer les processus de résistance et d'émancipation. Mmh. Donc moi, il y a aucun texte en fait. Il y a les textes les plus horribles en fait, mais paraissent toujours nécessaires.
Et vous y revenez parfois, même si justement parce que si c'est pour faire une critique de la philosophie, c'est vrai que pendant des mois vous coltinez aussi
des auteurs,
des textes qui vous.
Là, par exemple, en fait, je travaille beaucoup sur l'histoire de la psychologie, et donc j'ai lu beaucoup, pas uniquement Freud, mais parfois ça m'arrive, par exemple, de lire Lacan, en fait, des textes en fait que je trouve déplorables, en fait, des violences politiques, en fait, des textes texte sur la psychose lesbienne, soi-disant la psychose lesbienne, ou sur l'impossibilité de vivre en fait des personnes qui auront une identification transsexuelle, je le dis entre guillemets. En fait, c'est des textes d'une violence rare, mais aussi, on pourrait dire la même chose, en tant que personne qui a étudié la philosophie, vous imaginez en fait quand vous tombez sur les textes les plus racistes en fait des Hegel, mais ça peut être aussi, enfin, toute l'histoire de la modernité est remplie des textes d'un racisme fou.
Vous avez d'ailleurs écrit, Paul Preciado, ce livre « Je suis un monstre qui vous parle » qui était paru en 2019, qui s'adressait d'ailleurs à l'école de la Causse Rodienne, donc à un certain nombre de psychanalystes lacaniens.
Ouais.
Et on peut citer aussi Dysphoria Mundi, qui part justement de ce concept psychanalytique de dysphorie.
Oui. Voilà. Donc évidemment, l'histoire de la psychologie, l'histoire de la sexualité, l'histoire de la médecine, l'histoire du corps dans la modernité, est remplie de textes absolument déléguables. Mais qu'il faut
affronter, quoi.
Absolument, qu'il faut lire, il faut déconstruire, puisqu'en fait, c'est à travers cette histoire qui est la nôtre qu'on va pouvoir, justement, inventer une nouvelle épistémologie.
Merci beaucoup, Paul Preciado. De vous, on peut lire le manifeste contre-sexuel. Lisez-le, il est paru il y a 25 ans, il reparaît. Il est disponible aux éditions Au Diable Vauvert. Je viens de citer Dysphoria Mundi, c'est aux éditions Grasset. On peut voir aussi votre film Orlando, ma biographie politique. J'ai vu que c'était de nouveau disponible aujourd'hui même.
Ah, wow.
Sur Arte TV, vous ne le saviez pas.
Non,
je vous l'apprends.
Non, je ne le savais pas. Vous m'avez l'annoncé.
Ben voilà, je l'ai vu. Et pour lire le manifeste Cyborg de Donna Haraway, c'est disponible aux éditions Exil dans une anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardet et Nathalie Magnan. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation et à Paul Guigue à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.